Vous êtes sur RTL.
Ils ont été lâchement assassinés. Certains étaient engagés pour la plus altruiste des missions, aider les populations. L'hommage ce matin du président aux 8 personnes tuées hier dans le sud-ouest du Niger lors d'une excursion touristique. 6 Français, un guide et un chauffeur nigérien attaqués par des hommes armés à moto. Le parquet antiterroriste à Paris ouvre une enquête pour assassinat. Lionel Gendron, bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus ce midi sur les assaillants?
Alors, au moment où je vous parle, il n'y a pas de revendication, mais le mode opératoire, une attaque à moto, la façon d'exécuter les victimes, ressemble à celui des groupes djihadistes, lequel il y a 2 grandes nébuleuses dans la région, Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique. Un spécialiste de la région nous disait qu'habituellement, ACMI cherche à prendre des otages, l'État islamique cherche à terroriser. L'État islamique dans le Grand Sahara est notamment très actif depuis ses reculs dans ses bastions syriens et irakiens. Les militaires nigériens et français poursuivent les assaillants avec un appui aérien, une surveillance satellite. Selon un média local non confirmé, une source locale non confirmée officiellement, une personne aurait été arrêtée.
Lionel, est-ce que c'est une zone très compliquée pour les humanitaires?
Oui, alors par exemple, l'ONG ACTED, dont faisaient partie les victimes, est au Niger depuis 2010. Il y a actuellement entre 150 et 200 salariés. Il y en a eu jusqu'à 800. Les humanitaires sont une cible, comme le confirme le directeur adjoint des opérations de Médecins Sans Frontières, présent dans la région, Pierre Mandiara.
Ça devient vraiment très très dur de faire des actions. Ça l'est déjà, et puis là, ça, avec ce crime atroce, ça passe encore une étape. Il va falloir à nouveau prendre en compte cet événement-là et probablement restreindre nos opératoires encore plus que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant.
À noter enfin que suite à ce qu'il a qualifié d'attentat, Emmanuel Macron réunira un conseil de défense demain matin.
Lionel Gendron du service étranger de RTL, merci pour ces précisions. Le Liban, avec la démission d'un 3e ministre aujourd'hui, 6 jours après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth, le ministre de la Justice vient de claquer la porte. Hier, c'était ceux de l'information et de l'environnement qui annonçaient leur départ en présentant leurs excuses. La communauté internationale a débloqué plus de 250 millions d'euros d'aide immédiate et les grandes entreprises françaises, elles aussi se mobilisent. Laurent Vallée, secrétaire général du groupe Carrefour.
L'entreprise s'est mobilisée immédiatement pour envoyer des produits au Liban. Il s'agit de 40 tonnes de produits alimentaires qui étaient dans les entrepôts de Carrefour. Donc l'entreprise s'est mobilisée pour les réunir. Ils ont été acheminés grâce à un vol affrété par le ministère des Affaires étrangères. De la farine, des pâtes, riz, des conserves de poisson, donc des choses qui sont non périssables, utilisables immédiatement et qui peuvent supporter le voyage et être acheminées assez rapidement. Et sur place, le dispatching des produits est assuré par un partenaire que nous avons, qui s'appelle MAF, et qui donc envoie ces 40 tonnes de produits et les répartit entre des ONG présentes sur place.
Laurent Vallée, le secrétaire général du groupe Carrefour, avec Éric Vanier pour RTL. Au Bélarus, ce pays entre la Pologne et la Russie, le résultat de l'élection présidentielle provoque de violents affrontements, des défilés monstres toute la nuit à Minsk, la capitale. Le président Loukachenko l'a remporté avec plus de 80% des voix. Un homme est décédé, des dizaines d'autres blessés, plus de 3000 personnes interpellées par la police. L'Union européenne réclame aujourd'hui un décompte exact des votes. Et puis il menace toujours de se briser, ce bateau échoué à l'île Maurice, un navire qui transporte 4000 tonnes de pétrole. La petite nation de l'océan Indien se prépare au pire. Déjà un quart de la cargaison a fuité. On marque une pause et dans un instant, une grande quête pour Lourdes. Pas de miracle à Lourdes, mais un petit coup de pouce du gouvernement alors que devait se dérouler dans quelques jours le principal pèlerinage de l'année. Avec le Covid, la deuxième ville hôtelière de France après Paris ne remplit que 4 à 7% seulement de ses capacités d'accueil. Les acteurs du tourisme local viennent de rencontrer ce matin le ministre de l'économie. Patrick Tegero, bonjour.
Bonjour.
Bruno Le Maire est venu rassurer les commerçants et les hôteliers en cette veille de 15 août.
C'est Claudine Aubert, la représentante des commerçants en articles religieux, qui a accueilli le ministre des Finances.
Disons que sur les 60% de réouverture au mois de juillet, c'est un chiffre d'affaires en baisse de 80%. Alors on voit bien qu'on ne s'en sort pas.
Ah, c'est pour ça qu'on a voulu venir spécifiquement à Lourdes et nous voulons avoir une réponse qui soit spécifique pour Lourdes. Donc on va inclure tous les magasins de souvenirs, les magasins de piété dans le fonds de solidarité, alors qu'ils n'y étaient pas auparavant.
Ce sera le cas également pour les galeries marchandes dans les aéroports et certains métiers comme celui de guide conférencier. Un peu plus loin, Bruno Le Maire a visité le magasin Soubirous devant le sanctuaire dirigé par Claudine Gonzalez.
Pour pouvoir réembaucher nos 14 filles l'année prochaine, on a vraiment besoin d'aide.
Bien sûr. On vous donne les moyens de tenir jusqu'à l'année prochaine.
On compte sur vous, on compte sur vous. Ne nous oubliez pas. Je n'ai jamais demandé d'aide. Mais là, on est vraiment au bord du gouffre, franchement. Et moi, je pense aussi à tout le bassin des Hautes-Pyrénées. Ici, le Lourdes représente énormément de choses. Tout part en cascade. C'est-à-dire que le comptable sera touché, les coiffeurs dans le centre-ville, tout le monde. Si les gens n'ont plus de salaire, c'est tout le monde qui va souffrir, pas uniquement nous, les marchands de souvenirs.
Lourdes, comme la Corse et les départements d'outre-mer, feront partie des territoires qui bénéficieront d'un plan de soutien spécifique au tourisme, car c'est une question de survie.
Patrick Tégéreau à Lourdes pour RTL. Costa Croisière, dans le collimateur de ses passagers, un collectif de touristes du Costa Magica a déposé 180 plaintes pour homicide involontaire. 3 personnes sont décédées du Covid-19 suite à leur séjour sur le Costa Magica qui s'était vu refoulé de plusieurs ports des Caraïbes début mars. Selon leur avocat, maître Philippe Courtois, l'équipage aurait alors encouragé les passagers à profiter des activités du navire, mais sans respecter les règles sanitaires.
La société Costa, en annulant pas la croisière, n'a pensé exclusivement qu'au côté économique plutôt qu'à la sécurité des passagers. Qui viennent nous dire aujourd'hui, on a tout fait pour la sécurité des passagers, c'est totalement faux. 24 heures après le départ, les escales sont annulées de jour en jour. Aucune information n'est donnée aux passagers, à tel point d'ailleurs, même lorsqu'ils veulent avoir des informations par Internet, le Wi-Fi est quasiment coupé. Vous avez le préfet de Martinique qui enjoint au commandant de consigner à bord les passagers dans leur cabine avec un portage de repas. Eh bien non, au contraire, on va laisser les passagers errer dans l'ensemble du bateau. Lorsqu'une escale est annulée, on va leur donner des bons d'achat pour aller au casino, dans les bars, dans les endroits où il y a plus de monde. Il n'y avait plus qu'un seul restaurant ouvert. Malheureusement, ce qui devait être des vacances pour beaucoup d'entre eux qui ont économisé pendant des années, malheureusement, se sont véritablement tournés en calvaire avec, malheureusement, encore une fois, des décès parmi les passagers.
Maître Philippe Courtois, l'avocat des passagers du Costa Magica avec Arnaud Touche. Un parapentiste disparu depuis jeudi dernier dans les Hautes-Pyrénées, à Val-Louron. Les recherches ont été lancées, elles se poursuivent aujourd'hui des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Ça y est, depuis 8h ce matin, les Parisiens sortent masqués, port du masque obligatoire en extérieur dans de nombreux quartiers de la capitale, mais aussi en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Une liste temporaire qui pourra varier dans les prochaines semaines en fonction de la situation sanitaire. Valentin Boissé, vous êtes dans le quartier Montorgueil à Paris et les Parisiens n'obéissent pas tous aux injonctions.
Oui, remonter la rue Montorgueil, c'est croiser ce matin peu de masques. Il est sur le visage d'une personne sur deux environ. Et derrière leur comptoir, les restaurateurs ont le sourire. Ils sont plutôt amusés de la nouvelle règle qui finalement ne change quasiment rien par rapport à ces derniers jours. Lola est serveuse dans l'un des cafés de la rue.
Il n'y avait pas vraiment de changement par rapport à avant. Certains l'avaient, certains ne l'avaient pas. Moi, j'avoue, je ne l'avais pas mis parce que j'avais très chaud. Et après, je l'ai vu une fois que j'étais en boutique, donc voilà. Il n'y avait pas forcément de panneaux pour le moment. Il n'y avait pas non plus de personnel, en fait, soit de la ville ou de force de l'ordre pour rappeler aux gens, en fait, de le remettre. Donc je pense que ça arrivera dans les jours à venir.
Pourtant, il y a quelques minutes, un contrôle a bien eu lieu, le premier de la journée. Une voiture de la mairie de Paris qui roule au pas dans cette rue Montorgueil. Elle s'est arrêtée à côté de Gabriel, un étudiant. Il s'est d'ailleurs pris un rappel à l'ordre.
Je pense que j'ai loupé l'information, tout simplement. Okay. Et puis, il n'y avait pas de signe ostentatoire dans la rue, j'ai pas vu d'affiche qui me prévenait que ça allait arriver, quoi. Il y a un côté un peu arbitraire dans le choix de la localisation. On devrait le porter partout, tout le temps, sans réfléchir, en fait. Parce qu'en fait, le fait qu'on l'enlève et qu'on le remette, c'est ça qui fait qu'on l'oublie tout le temps, quoi.
Et après le passage des agents de la mairie, tout le monde portait son masque et d'ailleurs ne le retirait même plus dans les rues adjacentes. Donc pour le moment, ici, rue de Montorgueil, l'heure est plutôt à la pédagogie.
Valentin Boissé, masqué à Paris pour RTL. Il faut porter le masque, mais ne surtout pas le mouiller. C'est une précision importante en ces temps de canicule. La fournaise qui dure et qui s'étend vers l'est, 54 départements en vigilance orange, 15 en vigilance rouge. En Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, dans l'Eure et la Seine-Maritime, Paris vit sa semaine la plus chaude depuis août 2003 et la nuit a également été très très difficile à Bordeaux.
Oui, et cette chaleur accablante semble avoir des répercussions sur nos façons de parler, entraînant des répétitions à répétition.
C'est étouffant.
Il fait trop chaud.
On essaye de dormir quand même, malgré ça, oui. Puis bon, on a beaucoup de moustiques aussi.
Et dans les maisons ou les appartements, chacun fait comme il peut dès que le soleil se couche.
Ah, c'est affreux. C'est affreux la nuit, on ne sait plus comment se mettre.
Eh bien, on fait comme on peut, ventilateur, les fenêtres ouvertes, les courants d'air, mais il n'y en a pas beaucoup.
La chaleur, là, c'est incroyable, la chaleur, là. Bon, on est obligé de prendre la douche tous les deux heures. Ah ouais, non, mais c'est grave, c'est incroyable.
Bon, pour certains, rien ne change.
Oh, moi, ça va, moi, quand je suis au lit, je dors, moi, c'est nickel. Il fait chaud ou froid.
Il a de la chance, hein. Il a de la chance.
Mais pour la grande majorité des dormeurs, la nuit...
Il fait chaud.
Faut faire avec, hein, il n'y a pas le choix.
Et on se dit, pourvu que cette nuit, il fasse moins chaud.
Il fasse moins chaud, surtout un peu de pluie pour tout le monde, ça va rafraîchir beaucoup de choses.
Hélas, pas de pluie prévue ce soir en Gironde, où le thermomètre devrait flirter avec les 28 degrés après 22 heures.
Eh oui, il fait chaud à Bordeaux, vous l'avez bien compris. C'était Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL. La météo, on y revient juste avant 13h, mais sachez qu'il va falloir encore patienter jusqu'à jeudi, voire vendredi. Le grand départ du Tour de France 2021 devrait être à Brest. Confirmation cet après-midi. Pour la version 2020, ce sera, vous le savez, à Nice, les 29, 30 et 31 août prochains. La plus prestigieuse des courses cyclistes et l'un des rares événements sportifs maintenus pendant l'épidémie. Mais hier, sur RTL, le maire de Nice n'a pas exclu un départ à huis clos. Vous écoutez Christian Estrosi.
Bon, d'abord, c'est un miracle que pour l'instant la date soit toujours au calendrier. Elle le sera et le Tour de France aura lieu. Donc aujourd'hui, nous maintenons un dispositif pour accueillir du public dans les conditions fixées par le gouvernement et en étant extrêmement vigilant sur.
C'est-à-dire le port du masque, la distanciation obligatoire.
La distanciation, etc. Et y compris sur la visite du village du Tour de France. Mais nous ne pouvons pas exclure, en fonction de l'évolution de l'épidémie, qu'il y ait un huis clos au départ si c'était nécessaire. L'essentiel est qu'il ait lieu, parce que c'est le seul grand événement de dimension planétaire qui reste au calendrier de cette année 2020. Eh bien, je trouve que c'est une belle image pour la France.
Christian Estrosi, invité hier de On refait le sport, avec Jean-Michel Rascol sur RTL.